Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à cette fonction que j'avais abandonnée il y a quelques mois pour raisons personnelles. Je remercie les anciens et d'avoir accepté mon retrait et d'avoir accepté mon retour. La prédication, c'est pas comme le vélo, c'est pas quelque chose qui s'oublie pas. Je me suis rendu compte que quand on ne le pratique pas, c'est difficile de se remettre dedans parce que c'est une charge délicate qui ne repose jamais sur l'expérience. C'est à chaque fois quelque chose de nouveau à remettre en jeu parce qu'il faut être digne de cette parole et digne de la personne qui nous, le Dieu qui nous confie la charge d'en parler et surtout digne de vous tous qui m'écoutez. Mais je suis très heureux d'avoir pu à nouveau me plonger dans la Bible et pouvoir travailler, découvrir des trésors et des textes qui m'ont fait beaucoup de bien et qui, j'espère, aujourd'hui, vous en feront aussi. Alors, comme à mon habitude, malheureusement, ça, je ne peux pas le changer, je me nourris de ce que je vis dans ma vie quotidienne pour parler de la Bible, et encore cette fois-ci, je ne dérogerai pas à cette habitude. Le thème, ce sont les petits prophètes, et je vais en parler, mais j'aimerais l'introduire dans un contexte plus général qui m'a permis de trouver un angle d'attaque qui me paraissait pertinent, et qui, j'espère, vous le paraîtra aussi. J'étais au Festival de Cannes jeudi soir. Je n'y avais pas été depuis très 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 longtemps. Je me demande même si j'avais jamais monté les marches. Je l'avais vu y aller, y traîner, comme tout bon grassois qui se respecte, dès qu'il y a le Festival de Cannes, on fuit. Hein, Cannes devient une ville occupée, dangereuse, trop de monde. On a un peu peur. Mais là, j'avais une invitation, donc j'ai ressorti les vieux costumes. Il faut bien que le mariage serve à quelque chose. Le nœud papillon, et j'étais beau comme un camion, entre guillemets, un vieux camion. Hein. Et donc j'ai été voir le Festival de Cannes, donc c'était un film de Ken Loach, qui a déjà été primé deux fois au Festival de Cannes, j'avais de la chance, qui s'appelle Sorry We Missed You, et qui parle en fait de l'ubérisation de la société occidentale, à travers l'ubérisation, c'est-à-dire des gens qui deviennent leur propre patron, mais qui sont en fait pris dans une structure qui est tout à fait contraignante pour eux, et là c'est l'histoire d'un père de famille, une quarantaine d'années, qui pour survivre accepte de prendre une franchise de livreur d'objets, de colis d'Amazon et autres colis qu'on commande tous sur Internet et on veut qu'ils arrivent à l'heure parce qu'on a payé pour. Et en fait, on se rend, ce que ce film montre, coupable d'une espèce de marchandisation de tout. Et à travers, et ceux qui en payent des pots cassés entre autres, ce sont les gens qui sont les intermédiaires entre ces grandes boîtes et nous pour que ces colis arrivent. Donc, c'est un film extrêmement intéressant, mais je ne suis pas là pour faire une critique Télérama. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand j'étais dans cette soirée, j'ai vraiment vécu une double image du monde. Il y avait le monde réel, celui de Cannes avec le strass, les paillettes, les gens magnifiques, les belles robes, la foule, l'argent, la gloire. Enfin, Cannes, il y avait cette espèce de richesse, on a l'impression que la vie est magnifique, que tout est beau, que soi-même, on se trouve beau, enfin, il y a des choses incroyables, et on va dire au restaurant, enfin, c'est un monde dont rêve la planète entière d'être à Cannes ce jour-là, de monter les marges, de regarder les photographes, enfin, c'est très, très, voilà. Et puis, il y a le monde virtuel, celui qu'on voit sur l'écran, et qui raconte une vie virtuelle, forcément, puisqu'on est au cinéma, et là, c'était le film, c'était de l'angoisse, la violence, la mésentente, les problèmes d'argent, la douleur, parce que ce film, c'est vraiment un drame social, que cette famille va être presque complètement détruite par cette ubérisation et par cette contrainte économique de ce nouveau monde. Et alors le paradoxe, en fait, j'y réfléchis, c'est que je croyais que le monde réel, c'était Cannes, et que le monde virtuel, c'était ce qu'on voyait sur l'écran, et en fait, c'est exactement le contraire. Le monde virtuel, c'était Cannes, et le monde réel, c'était ce qu'on voyait dans l'écran. Et toute cette soirée a été prolongée a été une plongée dans ce monde qui n'est pas le vrai, et d'où tout le monde joue à croire que c'est le vrai, parce que ça rassure, parce que ça fait du bien, parce que c'est agréable, de vivre dans le luxe, dans l'art, etc. Et à regarder ce monde virtuel qui était le vrai, mais qu'on regardait de loin, donc qui ne nous touchait pas trop. On pouvait prendre des distances et se dire que quelque part, cela ne nous concernait pas. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans ces deux mondes, le Dieu n'existe pas. Il n'y avait aucune mention de lui, que ce soit dans le monde virtuel de l'écran ou dans le monde réel, on peut tout inverser, vous avez compris, de Cannes. Il n'y a pas eu, pendant toute cette soirée de 9h, de 7h du soir, au début du restaurant, jusqu'à la sortie à minuit et demi avec le pot après, il n'y a pas eu une seule fois quelque chose qui m'ait fait penser à Dieu. Le film n'en parle jamais, il n'y a pas un curé qui passe, un rabbin, il n'y a pas une croix, il n'y a pas une prière, il n'y a rien. Il n'y a que cette contrainte sociale terrible. Et autour, les marches, tout, il n'y a rien qui montre Dieu, qui parle de Dieu au sens le plus large du terme. Et un martien qui aurait passé la soirée avec moi, qui serait arrivé, se serait dit, à la fin de la soirée, au retour au parking, sur Terre, les hommes n'ont pas de Dieu. Il n'y fait aucune référence. Il parle de leurs soucis, de leurs problèmes, de leur joie, il se montre... Il y a tout un des mondes qui existent, mais à aucun moment il y a un rapport vertical avec quelque chose qui serait de l'ordre de la créature face au créateur. Et la question que je me suis posée en sortant de là, c'est qu'avons-nous fait de Dieu ? Collectivement, dans ce cas-là, mais aussi individuellement. Qu'ai-je fait de Dieu ? Qu'as-tu fait de Dieu ? Qu'as-tu fait de Dieu ? Qu'avons-nous fait de Dieu pour que dans une soirée, comme ça, alors c'est anecdotique, vous me direz, j'ai eu ce sentiment incroyable, mais qu'on pourrait tirer finalement dans plein d'autres exemples, où Dieu n'est plus à sa place, où Dieu n'a pas de place. Alors pour les non-croyants, la réponse est claire, du moins en apparence, il a été en effet rayé de la carte, officiellement. Après, il faut confirmer à l'intérieur de chacun, dans les moments difficiles, tout ce qui peut arriver. Mais pour nous chrétiens, la réponse est différente, enfin je l'espère, et surtout une réponse personnelle. Pour ma part, et je ne vais pas jouer à plus héroïque que je ne le suis, Dieu, pendant cette soirée, je l'avais mis de côté, mais une fois que j'avais enfilé le smoking et le nœud papillon, j'étais plus là avec Dieu à côté de moi. C'est ce que je croyais. Mais en fait, je l'ai ressenti par défaut en quelque sorte, parce que du début à la fin de cette soirée, j'étais angoissé. Vous direz, je m'angoisse facilement, mais bon, je ne suis pas non plus à prendre des drogues, etc., donc je pense être comme beaucoup de gens... un sentiment diffus de quelque chose qui me gênait. Alors déjà, le film n'était pas gay, c'est sûr. Ce n'était pas un film d'horreur, mais c'était un film oppressant par cette terreur sociale qui s'abattait sur cette famille. Donc ça se passait à Londres. Et il y avait aussi une angoisse dans cette salle, tous ces gens, ce bonheur qui passait autour, ces lumières, ces... J'ai passé cette soirée angoissée, alors que j'aurais dû être très heureux, et d'une certaine façon je l'étais quand même, de participer à cet événement, et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est le lendemain que je l'ai compris en fait, et c'est en étudiant ces textes, parce que tout ça était en parallèle, en fait c'était l'absence de Dieu que j'avais capté. Je ne l'avais pas du tout formalisé, je vous le dis, hein, je n'étais pas là à dire oui, ils sont là, ils ne voient pas que Dieu est là, non, j'étais comme tout le monde, mais au fond c'était ça. Dieu était avec moi par le fait qu'il était absent et par le fait que je ressentais cette absence, même si je ne la conceptualisais pas. À ma façon, donc Dieu était présent avec moi, mais je l'ignorais. Ce n'était pas qu'il était absent, c'est moi qui ne lui laissais pas la place d'être. Et j'ai aimé finalement cette façon d'être chrétien, même inconsciemment. Elle prouvait que même à mon corps défendant, Dieu m'accompagnait. Il me faisait ressentir ce qu'il devait ressentir lui-même, si je puis me permettre de penser cela. C'est-à-dire que Dieu, en voyant tout ça, cette misère pseudo-réelle de ce monde qui s'étourdit de lumière, de rire et de luxe, et la misère qui était derrière l'écran de cette famille qui souffrait vraiment de sa situation personnelle, eh bien, Dieu ne pouvait qu'être malheureux, triste, angoissé pour ces créatures qui vivaient ça. Et quelque part, tout modestement, évidemment, je vivais cette angoisse-là. Et ça m'a rassuré de penser ça, parce que je me suis dit que même dans les moments où je pense qu'il n'est pas là, ou que je le mets de côté, il m'a tellement imprégné, que quelque part je vois avec ses yeux, même si je ne comprends pas le pourquoi du comment, ou si je le comprends en décalé. Et je me disais que si être disciple de Jésus, c'était peut-être, à défaut d'être capable de lui ressembler dans nos comportements, au moins déjà d'être capable de ressentir les êtres et les actes comme lui, mais à notre échelle humaine. C'est-à-dire avoir de la pitié, avoir de la compassion, avoir de l'angoisse devant ces situations que peut-être d'autres personnes, tu parlais tout à l'heure dans ta prière, des gens qui mentent, etc. Nous, le mensonge, on va peut-être le pratiquer, on va peut-être le voir, mais ça va nous faire quelque chose. Ça va nous toucher, ça va peut-être nous angoisser, nous dire c'est pas... D'autres personnes, non. Je mens, si ça me profite, tant mieux. Et être chrétien, c'est peut-être ça déjà. C'est que Dieu met en nous cette sensation. Alors, après, est-ce qu'on a les comportements adéquats ? On fait ce qu'on peut, parce qu'en effet, on n'est pas Dieu. Mais à priori, ce sentiment que Dieu était avec moi, à travers l'angoisse que je ressentais. Alors, le danger, c'est un peu loin. J'arrive au plus prophète, promets. On est en plein déboire. C'est de ne plus vouloir écouter à ce moment-ci de voir sa cruauté. Le festival à joie. Je touche avec ma Bible, mes livres, pour préparer l'éducation. C'est un moyen d'échapper à cette angoisse et de vous parler d'un monde parfait, tel qu'on peut l'imaginer et le fait. On reste chez soi, protégé de ce monde pseudo-réel et de ce monde pseudo-virtuel dont je parle. Le danger, c'est de créer nous un monde virtuel. On peut croire qu'il y a le monde virtuel de notre foi, entre frères et sœurs, à l'abri des secousses du monde réel. Par exemple, dans le dernier week-end au Blaoukas, je ne sais pas comment ça on dit. Blacacas. Non ? Blackhaus ? Bon, enfin, vous m'avez compris. C'était un merveilleux week-end, mais on était totalement hors du monde. Tant mieux de vivre ces moments-là. Mais on ne peut pas vivre comme ça tout le temps, parce que ce n'est pas le monde tel qu'il est, et ce n'est pas le monde dans lequel Dieu veut que l'on soit, même s'il faut des moments comme ça, évidemment. Ne plus aller au cinéma, au théâtre, en sortie, quelle qu'elle soit, qu'avec des gens de notre sphère chrétienne, sur des spectacles ou des sorties sélectionnées, parce que pas dangereuses, n'avoir que des amis qui pensent comme nous, c'est créer un monde virtuel qui n'est pas celui que Jésus a fréquenté. Et vous le savez fort bien, le danger, il est là. C'est de, en voulant tellement se protéger pour être a priori à la hauteur de notre foi, que cette protection crée un monde qui n'est pas le vrai monde, et dans lequel notre foi, finalement, est inopérante, et peut-être même devient pas la foi réelle, la foi qu'il faut. Parce que quel mérite d'avoir une foi qui tient la route, qui est propre, qui est bien, si on est tous entre amis du même avis, dans un monde qu'on protège le plus possible, c'est pas ce que Dieu dit. Il dit, vous êtes du monde, vous n'êtes pas dans ce monde, mais vous êtes quand même du monde, allez-y. Et c'est là que repose la question, qu'avons-nous fait de Dieu ? Faisons attention de ne pas le réduire à un mode d'emploi d'immunité par rapport au monde de l'extérieur. Alors, puisqu'on est dans le cinéma, je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu sur Internet il y a quelques temps, que j'ai payé, hein, je vous rassure, ce qui s'appelle La désobéissance. On est encore à Londres, comme le premier film. C'est un film récent, et on est dans la communauté juive de Londres. Communauté orthodoxe, qui essaie, elle, de se préserver, ce que je disais, qui crée ses propres codes, qui vit dans la société en même temps en dehors. Ils se marient entre eux, ils font tout entre eux, et ça fonctionne plutôt bien. Et peut-être que le livreur d'Amazon de mon film précédent, il a été une fois livré un colis à cette communauté. Une fois le colis livré, il n'y a eu aucun contact, aucun échange. Chacun est resté dans sa propre bulle. Mon livreur d'Amazon, dans son monde athée de violence, de doute, d'interrogation, de peur, de crainte, et le monsieur de la communauté juive qui prend son paquet, dans son monde a priori protégé, dans lequel il peut vivre sa foi à peu près correctement. C'est notre principal défi de chrétien. Que faisons-nous de notre Dieu ? Alors, cette longue introduction vous semble bien loin du thème imposé, donc je vous disais sur les petits prophètes, mais j'y arrive. Parce que j'avais décidé depuis 15 jours de vous parler du livre de Jonas. Pourquoi ? Parce qu'il tient sur... j'aime bien les livres qui tiennent sur une page. Voilà, vous voyez, regardez, c'est génial. Il y a 1, 2, 3, 4, ça tient là-dessus dans ma Bible à moi. Donc, au moins, c'est carré, c'est précis. ça plaît à l'œil. Et d'ailleurs, je remercie Simon qui devait s'occuper de sa fille, parce que c'est lui qui devait faire Jonas, et je l'ai imploré de me le laisser, et il a bien accepté. Donc, merci. Mais j'ignorais sous quel angle attaquer ce Jonas auquel je pensais depuis 15 jours. Parce que quand on pense à Jonas, notre culture chrétienne dit aussitôt désobéissance à Dieu, refus d'être prophète, et surtout le gros poisson, les 3 jours et les 3 nuits. En gros, c'est ce qu'on sait de Jonas, c'est ce que je savais de lui. Et d'ailleurs, quand Jésus même en parle, dans Matthieu 12, 40-41, il dit « Quand Jonas était dans le ventre du poisson, c'était comme moi, voilà. » Même lui fait ce raccourci-là. Or, l'histoire de Jonas est une histoire 1000 fois plus compliquée que ça. Le coup du poisson, entre guillemets, c'est un détail. Et c'est en sortant du festival de Cannes, enfin le lendemain que j'ai plongé, que je me suis dit « Mais oui, c'est pas pour rien que j'étais voir ce festival et que je me suis plongé dans cette angoisse et donc dans tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. » Parce que le livre de Jonas, il mériterait lui aussi de monter les marches du Palais des Festivals. Tant il contient tous les ingrédients d'un film extraordinaire. C'est à la fois un film à suspense, un film politique, un road movie, un film catastrophe, un film de science-fiction, un film d'horreur, un film intimiste, un péplum, un drame psychologique. Et c'est un film qui nécessite un énorme budget, sans doute le plus gros budget de la Bible, à part le film sur la création. Il faut des lieux de tournage très nombreux. Ça se passe dans la campagne, dans un port, en mer, dans une mégapole. Il faut des effets spéciaux. Il y a un monstre, il y a une tempête, il y a une plante magique. Il faut des gros décors, un immense bateau, une ville géante, il faut un palais royal, une multitude de figurants humains et animaux. Il faut des seconds rôles de qualité, des bons comédiens pour jouer les marins, le capitaine, le roi. Puis il faut une grosse pointure pour interpréter Dieu. Attention, parce que Dieu, il intervient. Alors Morgan Freeman, il le fait souvent en ce moment. On dit qu'un dieu noir, ça fait bien. Donc il était dans Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et d'autres. Allez, va pour Morgan Freeman. Et surtout un acteur charismatique, parce que Jonas, c'est tout sauf un gars qui rentre dans la tête d'un poisson et qui en ressort. C'est une histoire incroyable. Alors je pensais à Bradley Cooper, parce qu'il a un peu la tête de l'emploi, et ça pourrait bien fonctionner pour le Festival de Cannes, qui aime les paillettes et les héros. Parce que cet acteur qui va être Jonas, il va tenir un rôle fondamental et un rôle de héros moderne. Et le héros moderne, c'est tout sauf Bruce Willis. Celui qui arrive, je sais tout, je casse tout et je gagne à la fin. Parce que Jonas, c'est vraiment l'anti-héros. C'est un type plein de failles, plein de doutes, plein d'angoisses, plein d'échecs. Il pense qu'à mourir une fois sur deux. C'est vraiment le héros malgré lui. Et c'est cette modernité qui nous le rend très proche, facilement identifiable, beaucoup plus qu'un Abraham ou qu'un Moïse ou qu'un Noé ou même qu'un Paul. Car ce héros, dont je vais vous raconter l'histoire, il ne cesse de poser cette même question dont nous parlions tout à l'heure, qui pourrait faire le titre de notre film, Les Aventures de Jonas, et le sous-titre, vous savez, celui qui fait venir le chaland, Que faisons-nous de notre Dieu ? Vous ne croyez pas ? Alors prenez votre ticket, installez-vous dans votre fauteuil, mettez vos lunettes 3D, et le film va commencer. Ça, c'est la pub avant. Alors, c'est un film qui est en 4 parties, qui d'ailleurs correspond aux 4 chapitres de notre livre. Alors, je vais demander à José de pas projeter, parce que je vais essayer de vous le raconter, en vous en lisant que peu d'extraits, faites-moi confiance, c'est ces textes-là, mais j'ai essayé de vous le rendre un peu plus vivant pour vous faire rendre compte que cette histoire, c'est la nôtre, d'une certaine façon. Et ce Jonas, c'est un héros moderne, un anti-héros, et nous sommes tous à notre façon des anti-héros quand on commence à vivre et jusqu'à la fin de notre existence. La scène 1, ça commence très très fort, c'est grand spectacle. Ça commence par une scène d'abord très intimiste, mais on met le paquet tout de suite, Dieu parle. Alors est-ce que c'est une voix off? Est-ce que c'est un comédien? C'est un Dieu fait homme? Mais on commence très fort, une voix off qui parle à Jonas et qui lui dit « Va voir la ville de Ninive, lui dire toute ma colère et que si elle ne se repent pas, je l'ai détruit. » Donc dès le début, la problématique du film est mise en place. Et alors Ninive, c'est pas n'importe quoi. C'est la grande ville d'Assyrie qui est en fait sur l'actuel Irak, près de Mossoul. Et c'est une ville gigantesque et c'est surtout les pires ennemis du royaume d'Israël. Donc proposer ça à un homme seul, va dans les rues de Ninive, va dire que moi, le Dieu d'Israël, je ne suis pas content et qu'il se repent, sinon je vais les détruire, ça vous place tout de suite le film dans le suspense absolu. Évidemment, que fait Jonas ? Alors Moïse, il y va peut-être, Abraham, il y va. Jonas, il dit, mais ça va pas, moi j'y vais pas du tout. J'ai la trouille, je ne sais pas. La raison n'est pas donnée pour le moment. La première chose qu'il fait, il refuse la mission. Il fuit. Et on peut imaginer qu'il a une famille, une femme, des enfants, il les quitte éplorés. Écoute, j'ai une mission qui est impossible. Il faut que je me fasse petit pendant quelques temps. Je m'en vais, je vous donnerai des nouvelles. Si Dieu vient et dit que je suis pas là, je sais pas où je suis, parti, il vous fera pas de mal, je pense. Mais là, il faut pas que je sois là du tout. Et que faisons-nous de notre Dieu? Que fait-il de son Dieu? Il en fait d'abord un ennemi. Un ennemi qui lui veut du mal. Alors à chaque fois que je vais dire ça, je vais pas vous redire « et vous, et moi ». Mais il y a toujours un moment où on va considérer « que faisons-nous de notre Dieu ?» Est-ce qu'il n'est pas en train de se comporter comme mon ennemi, là, de me proposer ça? Ça va pas. Donc je le referai pas à chaque fois. Je vous laisse faire votre propre traduction. Et donc, après cette scène première intime qui place tout de suite les enjeux du film, nous passons à la scène 2, la fuite de Jonas. Alors Jonas, il fait pas n'importe quoi. Il faut savoir que Ninive, si je compte bien par rapport à Israël, Ninive, ça serait à l'est, complètement l'Irak là-bas. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Lui, il décide d'aller à Tarsis. Alors Tarsis, d'après ce qu'on en sait, c'est complètement à l'ouest. Ce serait presque vers l'Espagne, dans ces eaux-là. On n'est pas très sûr, mais n'empêche qu'il y a des locutions de l'époque qui disaient « faire la route vers Tarsis », ça veut dire partir au bout du monde, quoi. C'était devenu un espèce de lieu commun. Et si tu vas à Tarsis, c'est que tu vas très très loin. Donc lui, on lui dit d'aller là, il ne se cache pas là, il va là-bas, pour être sûr que ça se passe vraiment très très loin. On imagine sa peur d'être rattrapé par cette voix off, donc il se dit, je vais aller très loin pour qu'il ne me retrouve pas. D'ailleurs, à qui pourrait-il en parler? Quand on est pour un fou, d'entendre des voix. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je parte loin. Pour ça, à cette époque, il n'y a pas les avions. Il n'y a que le bateau qui va sur le port de Jaffo, qu'on pense être Jaffa. Et là, il repère un bateau, il prend son baluchon, il dit rien, il paye sa place. Il se met sur le bateau. Ouf, le bateau démarre, voile. Ça y est. J'ai échappé. Donc, pour un héros, c'est plutôt nul, hein. Excusez-moi. Il s'en va et disparaît. Et, sans doute tourmenté par son secret intérieur, qu'il est forcé de taire, et il croit qu'en fuyant, il va avoir la paix. Que faisons-nous de notre Dieu? Une divinité non totale? Quelqu'un à qui tu peux cacher quelque chose? Troisième scène. Là, il faut mettre le budget. La traversée a commencé. Et c'est le premier morceau de bravoure du film. La tempête débute, panique à bord. Et c'est pas une petite tempête. Le Titanic à côté, c'est pas mal non plus. Donc vous voyez, il n'y a pas de tempête dans le Titanic, mais c'est la grosse tempête. Donc là, il faut mettre les gros moyens. Et c'est panique à bord. Panique à bord. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe dans toutes les paniques quand la vie est en jeu, c'est que tous les habitants du navire, tous les passagers, les membres d'équipage, que font-ils? Ils se mettent tous à prier leur propre Dieu. Peut-être même ceux qui n'en avaient pas, ceux qui disaient qu'ils étaient athées, commencent à se souvenir qu'il y avait une statue, une vierge ou un rabbin, je ne sais pas. Chacun s'est marqué, prie son propre Dieu, parce que quand on a sa peau qui est en jeu, à ce moment-là, la verticalité, elle revient très très vite. Que puis-je faire? Ils se mettent à genoux, ils prient, etc., etc. Et donc il va choisir selon son éducation, ses traditions, ce qu'il a entendu, je ne sais pas. Ils se mettent tous à prier tellement ils ont peur de mourir. La mort fait remonter les croyances ancestrales, on jette même les bagages par-dessus bord, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de passé qui compte, il n'y a plus que vivre à tout prix. Et que faisons-nous de notre Dieu à ce moment-là? Une roue de secours? Une bouée de sauvetage? Au milieu de cette panique, Jonas, que fait-il? Il descend au fond du bateau, dans la cale, dans une petite cabine, il se met à s'endormir. Il se dit, au moins, si je m'endors, j'oublie. Si j'oublie, peut-être que lui va m'oublier. Je ne veux pas être participant de ce drame qui se joue là, dont je sens bien que c'est un peu de ma faute. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu sans mémoire? Au milieu de cette grande panique, le pilote, qui devait connaître un peu tout le monde, s'aperçoit de l'absence de ce jour-là, alors que tout le monde est là à hurler, à prier, à trouver des solutions. Il le cherche et il le trouve en bas. Et il lui demande « Que peut faire ton Dieu pour nous sauver ?» Tout le monde prie, sauf toi. Donc attends, et comme ça ne marche pas, peut-être que ton Dieu, toi, il peut faire quelque chose. Pourquoi tu ne pries pas ton Dieu ? C'est le capitaine qui donne cette idée. Que faisons-nous de notre Dieu ? Est-ce que nous en faisons un Dieu sauveur ? Il ne répond pas car il n'a pas le temps. Sur le pont, tous les passagers se sont réunis, ils se sont dit il faut faire quelque chose, et quand les dieux ne marchent plus, on se remet au hasard. Donc comme dans « Il était un petit navire », il tire au sort le nom du passager qui est le coupable, la cause de ce drame atroce qui va leur faire perdre la vie à tous. Il tire au sort, et évidemment, le sort tombe sur Jonas. Donc ils vont tous le voir, ils le sortent de sa couchette, ils disent « Alors, oh, c'est toi, donc si c'est toi, c'est que les dieux ont dit que c'était toi, ou le hasard, qu'importe, dis-nous ce qui se passe », parce que c'est dit dans le texte, il leur avait expliqué lors du début de la traversée pourquoi il fuyait, parce qu'il y avait un problème avec son propre dieu, donc il dit « C'est forcément toi, fais quelque chose ». Et il lui pose la question « Que fera-t-on pour calmer cette mer ? Que fera-t-on pour calmer ton dieu ?» Et réponse de Jonas, alors vraiment c'est pas le héros, il dit « Écoutez, jetez-moi à la mer, zigouillez-moi, comme ça le problème est résolu. » Oui, c'est un beau rôle à jouer ça. Quand les gens ils sont là, il dit « Ah d'accord, que faisons-nous de notre dieu ? Un dieu cruel ?» Et comme ces êtres humains ne sont pas des sauvages, comme beaucoup de gens qui nous entourent autour de nous, ils n'acceptent pas cette situation. Ils disent oh, « pas, non, ça ne se fait pas, enfin, ça n'a pas de sens. » Pas pour le moment, ils refusent de le faire. Ils essayent de se débrouiller autrement, ils reprennent les rames, ils remettent les voiles, ils essayent de sortir de cette tempête-là. Et, chose incroyable, ils prient l'Éternel. Ils prient ce Dieu-là dont a parlé ce Jonas. Ils le prient, ils oublient tous les autres dieux. Et devant l'exemple de cet homme qui était prêt à mourir pour que le bateau survive, il prie l'Éternel. Il demande son indulgence. Mais comme rien ne fait, il s'excuse auprès de l'Éternel de devoir commettre ce crime. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils prennent Jonas et ils le foutent à l'eau. Comme ils disent, voilà. Ils le mettent à la mer. Et ce qui est intéressant, c'est que et ensuite la tempête se calme. Et que font ces hommes ? Ils n'oublient pas ce qui s'est passé. Ils prient Dieu, l'Éternel, ils font des sacrifices. La désobéissance de Jonas, quelque part, a sauvé, au sens divin du terme, les 100, les 150 ou les 300 personnes du bateau. Que faisons-nous de notre Dieu ? Un Dieu juste, qui par la faute de l'un, ne va pas détruire tous les autres. Et c'est intéressant pour nous de savoir que même notre désobéissance peut amener un bien. C'est déculpabilisant quelque part. Vous savez, c'est comme le GPS, où il vous dit, prenez la deuxième à droite. Toi, tu prends la troisième à gauche, parce que tu as oublié. Il n'est pas là à dire, bah, écoute, tu t'es planté, tu te débrouilles maintenant. Il fait, il tourne dans tous les sens, il dit, bon, alors, à la troisième à gauche, tu la reprendras, on va retrouver dans le bon chemin. Quoi que nous fassions, il va toujours recadrer son GPS pour nous remettre dans la bonne voie, en espérant que les gens à qui on aurait pu faire du mal autour de nous, eux ne vont pas avoir à subir la peine que nous devons subir. Et nous arrivons à la fin de la première partie, ça a déjà coûté très très cher, le producteur commence à être un peu inquiet, et moi aussi pour ma montre. Et nous arrivons à la deuxième partie de poisson. Alors ça, j'y ai passé très vite, parce que c'est pas la plus intéressante en quelque sorte. Donc il est dans le ventre du poisson. Quand j'ai raconté, pour m'échauffer un peu dans la voiture, j'ai raconté à ma fille Nikita tout le film. Ouais, tu vois, Jonas, ah, c'est super. Puis à la fin, elle m'a dit, alors, je lui ai dit, t'as trouvé ça comment ? Elle dit, ah, c'est super, mais alors le coup du poisson, c'est pas bon. Ça, j'y crois pas. Je dis, mais enfin, dans les films, oui, mais ça, j'y crois pas. Le reste, j'y crois, mais le coup du poisson, j'y crois pas. Alors, je vous demande pas d'y croire non plus. C'est écrit, là, on peut ressortir des vieux témoignages de gens qui ont passé quelques heures ou une journée ou deux dans le ventre d'un cachalot. Ça existe, il y a des témoignages. Qu'importe, je suis pas là pour faire un cours de de science-fiction possible ou pas. Le fait est que c'est écrit et que dans le cadre d'un film, tout est possible. Donc j'accepte qu'il soit dans le ventre du poisson, d'une façon ou d'une autre, gros effets spéciaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'il tombe dedans, de grand dépressif depuis le début, on l'a quand même vu, hein, dépressif, trouillard, suicidaire, il devient heureux. Alors là, il est heureux. Jonas, il fait une prière magnifique. « Merci mon Dieu, j'étais mal barré, tu m'as fait tomber dans l'eau, c'est génial, etc. » Au pire moment, il est très heureux. Alors, cette prière n'est pas si simple à comprendre. On a vraiment l'impression qu'il a été heureux enfin d'être arraché à sa faute, d'être récupéré par Dieu, repris, et d'être puni, et de mourir. Il dit « Au moins, quand je serai mort, je serai près de toi, ce sera très très bien. » Le texte n'est pas... Voilà, il peut aussi dire ça d'une certaine façon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il est heureux, il est reconnaissant d'avoir retrouvé son Dieu. Cette prière, elle dit presque « Je préfère mourir avec toi que vivre loin de toi. » Et c'est mieux d'être avec toi dans le ventre de la baleine, seul dans le noir et l'obscurité et l'angoisse absolue qui, pour les autres, non, là, je me sens très bien. Alors que quand j'étais dans le monde, j'avais tout pour être bien, mais j'étais très mal parce que j'étais loin de toi. Et que fait à ce moment-là Dieu devant cette prière? Il parle au poisson. Alors là, il m'a dit, Nikita, non, on ne parle pas au poisson. Aux dauphins, à la limite, qui sont peut-être pas trop bêtes, mais pas au poisson. Mais si, il parle au poisson. L'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu attentif. Attentif à nos prières, attentif à tout ce qu'on est. Et quand, dès qu'on est, même après avoir fui, fait toutes les erreurs du monde, dès qu'on est, même dans le trouble, à ce moment-là, de nouveau proche de lui, reconnaissant, à ce moment-là, ce Dieu attentif nous entend et nous donne une deuxième chance. Donc évidemment, comme je l'ai entendu à juste titre, tout le monde sait le rapport avec Jésus, la résurrection, les trois jours, les trois nuits. Je vous laisse refaire ça dans votre tête et je continue. Et nous arrivons à la troisième partie, la mission. Ah, le film devient très très cher, parce que fait Dieu? Je t'ai sauvé, d'accord, mais c'est un Dieu têtu. Que faisons-nous de notre Dieu? C'est un Dieu têtu. C'est un Dieu qui sait ce qu'il veut. C'est un Dieu qui va au bout de ses idées. C'est pas une girouette. La première fois, t'es parti, et bien, je t'ai sauvé, on remet le couvert. Je te redemande la même chose. Tu revas à Ninive, tu refais ton cinéma, tu leur dis tout. Et là, Jonas, évidemment, il n'a pas tellement le choix, il a compris, et il y va. Et commence la grande scène, qui coûte à mon avis la plus chère, plus que la tempête, parce que là, il faut reconstituer Ninive. Ninive, à l'époque, c'est une ville qui a des murailles de 12 kilomètres, parce qu'ils ont fait des recherches. Alors, c'est terrible, c'est que l'État islamique a détruit quasiment tout ce qu'il avait retrouvé de Ninive ces dernières années. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est une énorme kilomètre de murailles, et c'était un centre de commerce. C'est vraiment une ville immense, dont la Bible dit qu'il fallait 3 jours pour la verser à pied. Et donc plusieurs 120 000 qui vivaient dedans, et les animaux qui étaient à l'intérieur des murailles. C'est vraiment une ville qui vivait en autarcie, d'une sens extraordinaire. Donc les Ninivés seraient en contre. Donc là, il refait le circuit vers, l'est, et il arrive à Ninive. Et là, on sent bien qu'il fait une tête et qu'il a la trouille, parce qu'il se dit, je vais sortir le premier mot de la part de l'Éternel d'Israël à ces gens-là, je me fais zigouiller. Et pendant toute une journée, il arrive à parler, il n'arrive à rien. Vous imaginez, hein? Vous imaginez, vous allez, comment aujourd'hui, vous allez à Kaboul, vous prenez, Jésus est vivant, Jésus vous aime, repentez-vous, sinon Kaboul est détruite en mouvement impie. Vous n'êtes pas deux pas. J'ai ton histoire. Si vous allez aux États-Unis, dans certaines villes, bonjour, je m'appelle Mohamed Allah, et je vous dis que si vous n'avez pas, ben, vous faites tuer pas, hein, donc c'est des deux côtés que ça marche. Il y va. Pendant toute une journée, il ne se passe rien. Que faisons de notre Dieu? Un Dieu protecteur? Et ça marche tellement bien qu'au bout de seulement une journée, l'affaire est remontée jusqu'au roi. Donc, grande scène dans le palais royal. Et devant le roi, tous les princes, etc., il y a grand conseil. Sans que Jonas ait le d'être là, et le roi décide, en effet, d'aller dans le sens de la demande de Jonas. Et il dit, oulala, il a raison, cet homme, il faut faire pénitence. Et il ordonne à tous les hommes et à tous les animaux de se recouvrir de sacs de cendres, qui était la manière de dire pénitence, pour accéder à la demande que ce prophète à pied vient de dire au nom de son Dieu, repentez-vous. Et donc, en une journée, l'affaire est réussie, la mission a triomphé grâce à la persévérance de Dieu et au pauvre Jonas qui doit traîner sa peur, son angoisse. Tout là. Ce moment où il était bien, c'était dans le ventre de la bête, il aurait bien voulu y revenir. Fonctionne, j'ai la mission ici. Que faisons-nous de notre Dieu? Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, Maître de la terre, il veut tout. Alors, tout bien qui finit bien, c'est joli, c'est génial, on va finir avec grand Zien, la musique, et Jonas embrasse tout le monde, les animaux qui dansent, du tout. C'est un film de Dieu et ça va beaucoup plus loin. Ça serait trop facile que ça s'arrête là. Parce que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en effet, puisqu'ils se repentent, Dieu met sa promesse en place, donc ils sont tous sauvés. La ville n'est pas détruite. Que faisons-nous de Dieu? Un Dieu miséricordieux. Et donc c'est là que ça devrait s'arrêter. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une quatrième partie qui est la plus intéressante. C'est le dénouement, c'est le coup de théâtre, c'est l'explication finale. C'est les 10 dernières minutes qui donnent le sens à tout le film. Et d'un film simplement d'une aventure péplomesque va donner un sens totalement humain, totalement proche de nous, à cette aventure incroyable. En fait, on avait tout faux depuis le début. Et c'est bien les films quand on... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Bruce Willis, qui s'appelait Le Sixième Sens ou Le Cinquième Sens. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon qui a peur parce que... Alors, il y a quelqu'un qui vient l'aider, un psychologue, un policier. Et en fait, à la fin du film, bon, là, je vous le spoil, tant pis, on se rend compte que le petit garçon est mort depuis le début, comme le policier Bruce Willis, et que ce sont déjà des fantômes dans un monde de vivants. Et le film est tellement bien fait que, au bout d'une heure et demie, une heure et demie que je me suis fait avoir, et vu sous cet angle-là, t'as envie de revoir le film en entier pour comprendre, ah ben oui, là, le regard, enfin voilà. Et ben c'est exactement ce qui se passe ici, on a vu tout faux depuis le début. Car, une fois que Dieu sauve les habitants de Ninive, que fait Jonas? Où il est super heureux, il dit, ben je retourne chez moi, je vais voir ma femme et mes enfants. Il est furieux. Mais il est furieux. Et il dit cette phrase à Dieu. C'est pour ça que quand tu m'as donné cet ordre la première fois, j'ai pas été à Ninive, j'ai voulu partir de l'autre côté. Parce que je savais que comme tu es tout puissant, il y avait beaucoup de chances en effet que le peuple de Ninive se repente et que tu les sauves. Et moi je voulais pas que tu les sauves. Donc je suis parti. Je veux bien être ton prophète. Donc c'était pas de la peur. C'était pas de la peur d'être prophète, le refus. C'était je veux être le prophète à ma façon. Je veux bien faire ça si tu les tues. C'est exactement ça qui est écrit. Que faisons-nous de Dieu? Un Dieu à notre image? C'est nous qui sommes à son image. C'est pas à nous de le faire à notre image. Et là, c'est typiquement ce que fait Jonas. J'ai pas été parce que je savais que ça allait se passer comme ça et je veux pas. Parce que ces types-là, les Assyriens, c'était des salopes, des gens pas gentils qui faisaient beaucoup de mal, qui tuaient. Donc eux, c'était les pires ennemis. Ils voulaient qu'ils soient massacrés. Et qu'on n'en parle plus. Jonas, dans ce cas-là, c'est un ayatollah, c'est un intégriste, c'est ce que vous voulez. C'est un type dangereux qui met Dieu à sa sauce, qui veut que Dieu soit à son service, qui se sert des paroles de Dieu, qui se sert de l'image de Dieu pour faire ce qu'il a envie, lui, selon ses plans à lui. C'est extrêmement dangereux comme déviance. Et là, Jonas est dans son monde virtuel. Je parlais de ça tout à l'heure. Il s'est créé un monde, il veut que son Dieu soit comme ça, et comme ça, son monde est bien, bien carré. Et à l'extérieur, il y a les méchants, et Dieu doit les tuer, etc. On peut se créer très vite des mondes virtuels. D'abord, à vivre entre nous, à ignorer ce qui se passe dehors, et c'est surtout la principale raison, et quand on est dehors, à pas essayer de comprendre, comme je disais au début, quand j'étais dans ce festival, à essayer de ressentir les choses telles que Dieu peut les ressentir, en toute humilité, mais telles qu'on voudrait qu'il les ressente. Et ça, c'est le début de toutes les horreurs entre les hommes. Et que fait à ce moment-là Jonas, furieux? Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je quitte cette ville, et avant de rentrer chez moi, je me prends un petit cabanon sur les hauteurs, je me plante et je regarde. Je regarde s'ils vont tenir leurs promesses, et s'ils ne tiennent pas leurs promesses, si tu vas les détruire ou pas. Ils boudent. Et Dieu, alors, que fait-il? Il ne laisse pas Jonas. Il pourrait se fâcher. Non, comme il faisait très très chaud, il fait pousser en une nuit, alors encore c'est un petit budget, mais se faire pousser un truc en une nuit, maintenant avec le virtuel, les ordinateurs, c'est très très facile, hein Manu, pas de problème, tu fais ça tout le temps. Il fait pousser un ricin. Un ricin, c'est un arbre qui fait vers 2, 3, 4, 5, 6 mètres, au-dessus de la tête de Jonas, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit à l'ombre. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu bon, capable, contre moi, qui ne suis pas content, qui me rebelle, etc., d'aller faire pousser mon arbre pour que je sois bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième fois où Jonas est content de toute notre histoire. La première, c'était dans le ventre de la bête. Et là, il est écrit, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Il est content, alors évidemment parce qu'il est à l'ombre, mais surtout parce que, pour la deuxième fois, il sent que Dieu s'occupe de lui. Que Dieu est, lui, petit rien du tout, qui en plus est dans ses torts, en quelque sorte, il va lui faire pousser ça pour qu'il se sente bien. Que faisons-nous notre Dieu? Un Dieu bon. Et juste après, et c'est la scène finale, on croit que ça va se finir comme ça, ils vont se rabibocher, pas du tout. Que fait Dieu le lendemain? Il pourrit le ricin en une nuit, il envoie un verre, là, le ricin il tombe. Dieu il est au-dessus, Jonas est en dessous, désespéré, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut mourir. Alors j'ai oublié de vous dire que quand il a vu que Dieu avait sauvé la ville de Ninive, il avait dit « tue-moi, c'est bon, je préfère mourir ». La seconde fois, lui, c'est un grand suicidaire, hein, c'est un dépressif grave. Et la troisième fois, on lui enlève son arme de ricin, il dit, allez, je préfère mourir, parce que là, ça devient intenable, non pas que la chaleur arrive, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être très agréable, mais que tu m'as de nouveau joué avec moi, une fois tu me le mets, une fois tu ne me le mets pas, etc. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu qui a les mêmes réactions que nous, qui pense comme nous? Troisième tentative de suicide, j'en ai marre. Et à ce moment-là, c'est la scène finale, il est midi, qui commence comme la première scène. On avait commencé par une scène intime, Dieu qui parle à Jonas. Vous vous souvenez? Après, il y a eu tous les tempêtes, les grandes villes, les voyages. Et tout. Et la dernière scène, ils sont tous les deux seuls à nouveau. Et Dieu dit cette chose. Attends, là tu me fais une dépression pour ce ricin, comme si c'était ton être à toi, ton arbre chéri que tu as aimé en une journée. Tu ne l'as même pas créé, tu n'as rien fait pour le faire pousser. Tu en as juste profité. Tu te l'es accaparé. Et tu fais toute une angoisse au point de vouloir en mourir. Et moi, qui ai créé la terre et les animaux de Ninive et tous ces habitants de Ninive, tu ne penses pas que je pourrais être aussi dans l'affliction pour eux, dans la mansuétude, dans la miséricorde pour ceux qu'ils vivent? Arrête de voir par le petit bout de ta lorgnette à toi. Essaye de voir ce que moi je peux comprendre. Si toi, mauvais comme t'es, t'es capable d'être triste pour ce petit arbre de ricin qui est mort dans la nuit, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'être triste et malheureux pour ces milliers d'hommes qui disparaissent et qui vont mourir comme tu le souhaites? Et il parle même des animaux. C'est amusant. Alors, je ne vais pas faire du véganisme ou du spécisme. J'ai vu qu'aux élections européennes, il y a une liste pour les animaux. Pourquoi pas? Mais bon, les animaux aussi ont droit à cette miséricorde-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Il parle des hommes ignorants. Quelle leçon de tolérance! Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu intolérant? Un Dieu qui ne connaît pas les hommes? Il y a des hommes ignorants, des hommes qui ne savent pas. Et cela n'aurait pas le droit d'apprendre à me connaître? Au nom de quoi? Alors, l'histoire, le film s'arrête là, sur cette scène ultime qui ouvre un doute. Ça s'appelle une fin ouverte dans le domaine du cinéma ou du théâtre. C'est-à-dire que c'est pas à la fin, toi t'as gagné, moi j'ai perdu, et c'est fini, il y a les bons et les méchants. C'est, même tel que c'est écrit, c'est pas dit que Dieu va sauver Ninive. C'est dit, pourquoi je le ferai pas? Donc, ensuite, à chacun d'interpréter cette fin à sa façon, en se disant, est-ce que le principe d'amour qui régit ce livre dans l'optique de Dieu n'est pas le bon? Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu d'amour? Alors, la fin de l'histoire, c'est qu'en effet, Ninive va être sauvée cette fois-ci. On le sait pourquoi? Parce qu'on sait que 150 ans plus tard, elle va être détruite. C'est donc qu'elle a été sauvée à ce moment-là. C'est le prophète Nahum, dont je laisse un des prochains prédicateurs, c'est un petit prophète qui nous racontera peut-être cette histoire-là. 150 ans plus tard, Ninive subira finalement les foudres de cette repentance qui n'aura pas duré longtemps. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu qui ne serait pas juste? Un Dieu qui n'aurait pas aussi, qui ne serait pas sévère quand il le doit? Alors, je termine en disant que Jonas a vécu dans toute cette histoire dans un monde virtuel, en fait. Et même face à Dieu, à la fin, il a eu du mal à se défaire de ce monde virtuel-là. Nous, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est être totalement dans le réel. Que faisons-nous de notre Dieu dans le réel? Qu'est-ce que je fais de mon Dieu dans ma vie à moi, dans le monde qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent? C'est ça la leçon de Jonas, telle qu'elle m'est apparue à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre et que je vous ai racontées. Et je pense que le poisson, évidemment, pour les raisons que l'on sait, mais ce livre de Jonas, dans tous les petits prophètes et même dans beaucoup d'autres livres, est une histoire incroyable qui tient en deux pages. Mais si vous la relisez à l'aune de ce que j'ai essayé de vous raconter, vous verrez que toutes ces réactions, toutes ces attitudes font de nous des petits Jonas ou des Jonassettes et qui devons nous dire que, et c'est sur ça que je terminerai, que faisons-nous de notre Dieu? Moi, j'ai envie de dire, et c'était le dernier, j'en fais vraiment un Dieu d'amour. L'amour au sens le plus large du terme. Celui qui aime, qui protège, celui qui donne des limites, celui qui punit, celui qui sait ce qu'on doit faire, comme même nous, quand on pense que ce n'est pas la bonne chose. Quand nos enfants nous disent « Tu m'aimes pas, tu m'empêches d'avoir ceci », on sait que parfois ils nous considèrent comme des ennemis, mais c'est une preuve d'amour que nous avons. Que faisons-nous de notre Dieu? Un Dieu d'amour, ne l'oublions jamais.